France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. De tous les présidents américains, il est celui qui aura vécu le plus longtemps. Jimmy Carter est décédé hier à l'âge de 100 ans, se rendra en Israël pour évoquer ce traité essentiel à la stabilité régionale du Proche et Moyen-Orient qu'il avait su négocier lors de son unique mandat à la Maison-Blanche. À suivre également les inquiétudes de plus en plus fortes qui pèsent sur la santé et même la vie à présent de l'écrivain Boualem Sansal, toujours incarcéré en Algérie. On se rendra par ailleurs à Mayotte où le Premier ministre François Bayrou est arrivé ce matin avec la promesse de reconstruire l'archipel en 2 ans. Enfin, toute la semaine, nous nous intéressons aux changements qu'ont connus nos grands établissements publics pendant ce premier quart de 21e siècle. Aujourd'hui, la Bibliothèque nationale de France. Depuis ce matin, les dirigeants du monde entier rivalisent donc de bonnes formules pour rendre hommage et même s'incliner devant la vie et le rôle de celui que rien ne destinait a priori à être président des États-Unis, Jimmy Carter, décédé hier à l'âge de 100 ans, un humaniste convaincu et au mandat parfois critiqué, souvent incompris, de sorte que c'est surtout son engagement post-Maison Blanche en réalité qui apparaît aujourd'hui aux yeux de beaucoup comme un exemple et laisse de lui l'image d'une personnalité politique qui aura supporté haut les valeurs morale d'un pays qui, le mois dernier, réalisait un certain Donald Trump. Alors bien sûr, l'un des succès majeurs de la politique étrangère de l'ex-président américain, longtemps décrié pour sa faiblesse supposée, restera d'être parvenu, malgré tout, à faire signer les accords de paix dits de Camp David, prélude au premier traité entre l'État hébreu et un pays arabe, en l'occurrence l'Égypte. Une vraie avancée pour la stabilité régionale, qui aura survécu d'ailleurs de manière assez surprenante au passage du temps, et reste encore aujourd'hui un élément important de la sécurité nationale de Tel Aviv, ce qui n'empêche pas des réactions mitigées dans les médias israéliens ce matin. Pourquoi ? Parce que de médiateur historique, il était devenu l'un des critiques les plus virulents de la politique israélienne. C'est une correspondance signée Michel Paul.
Une approche bivalente, considérée en début de mandat comme un grand ami d'Israël, Jimmy Carter était devenu un de ses principaux détracteurs. Il est même l'un des premiers à avoir utilisé le terme d'apartheid pour qualifier la politique israélienne dans les territoires occupés. L'ancien président américain reste cependant avant tout le principal architecte des accords de Camp David en 1979, qui avait pavé la voie au traité de paix israélo-égyptien. C'est avec l'avènement du nouveau millénaire que Jimmy Carter a adopté des positions de plus en plus critiques à l'égard d'Israël. Il a en particulier dénoncé la colonisation israélienne en Cisjordanie, encore plus controversée en Israël son approche par rapport au Hamas. En 2006, il a estimé qu'il fallait donner une chance à l'organisation classée terroriste aux États-Unis. 3 ans plus tard, il s'est rendu dans l'enclave palestinienne avant d'appeler en 2014 à la reconnaissance du Hamas. L'ancien président américain a dans le même temps vivement condamné les actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza, accusant notamment son armée de viser délibérément des civils.
Comment s'assurer que la Syrie, épuisée par plus d'une décennie de guerre civile, ne plongera pas à son tour dans la malédiction des printemps arabes avortés? Hier, dans une interview télévisée, le nouveau maître de Damas, dont le groupe islamiste radical HTC, toujours classé comme organisation terroriste, a chassé du pouvoir Bachar al-Assad, a prévenu que l'organisation d'élections dans son pays pourrait prendre 4 années.
2 présidents pour un seul poste.
Hier, nouvel épisode d'une crise politique qui dure depuis maintenant 2 mois, la Géorgie. Cette ancienne république soviétique du Caucase a investi un nouveau chef d'État en la personne de Mikhail Kavelashvili, un ex-footballeur connu pour ses positions ultra-conservatrices et plus encore anti-occidentales. La cérémonie s'est tenue à huis clos. Par crainte des protestations de l'opposition pro-européenne, fidèle à la présidente sortante, Salomé Zourabichvili, laquelle, malgré la fin de son mandat, se présente toujours comme la seule dirigeante légitime du pays. L'étau se resserre sur le président déchu de Corée du Sud. Ce matin, les enquêteurs ont demandé à la justice d'émettre un mandat d'arrêt contre celui qui avait cherché en vain à imposer la loi martiale. Jamais, depuis la fin de la dictature militaire, c'était en 1987, les forces de l'ordre n'avaient ainsi tenté d'arrêter un chef d'État. Et puis c'est donc en pleine crise politique que le pays a dû affronter hier la pire catastrophe aérienne de son histoire. Bilan 179 morts. Or, ce matin, le président intérimaire a ordonné une inspection complète en urgence de tous les avions Boeing utilisés par les compagnies de transport aérien.
Il est 12h35 sur France Culture. La suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Sa détention s'assimile à une non-assistance à personne en danger. Ce matin, le comité de soutien international à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 80 ans, incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre, demande expressément à Emmanuel Macron, mais aussi à l'Union européenne, d'agir immédiatement pour sa libération. Son avocat alerte sur le risque d'une altération irréversible de sa santé. Les précisions de Christian Chéneau.
Dans son discours à la Nation, le président algérien a choisi, sans jamais citer son nom, d'assimiler Boualem Sansal à un apatride, un agent provocateur téléguidé depuis l'étranger.
Et aujourd'hui, on nous envoie un imposteur sans identité, de père inconnu, qui vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État.
Boualem Sansal, 80 ans, est incarcéré pour atteinte à la sûreté de l'État et se trouve dans une unité de soins pour traiter son cancer de la prostate, explique Arnaud Benedetti du comité de soutien de l'écrivain.
Il ne bénéficie pas de la protection consulaire comme il devrait en bénéficier puisqu'il a la double nationalité, il faut le rappeler, franco-algérienne. Les autorités algériennes, à ce stade, considèrent qu'il est exclusivement algérien et ne veulent pas que l'on fasse jouer la protection consulaire ou en tout cas oppose une fin de non-recevoir. Et il est évident que les conditions de détention qui sont les siennes ne paraissent pas les plus optimales pour traiter la maladie qui est la sienne vu son âge.
Le comité de soutien qui demande sa libération immédiate a bien conscience que le cas de Boualem Sansal est un dommage collatéral d'une relation bilatérale au plus bas entre Paris et Alger.
Mieux vaut tard que jamais. 2 semaines absolument après le cyclone le plus dévastateur qu'ait connu Mayotte ces 100 dernières années, François Bayrou a fini par arriver ce matin sur l'archipel ravagé, déjà tristement réputé pour être le département le plus pauvre de France. Une journée de visite au pas de charge, puisque dès ce soir, le Premier ministre fera ses adieux aux Mahorais, direction l'île de la Réunion, avant de regagner demain la métropole. En d'autres termes, et même si pour l'occasion le chef du gouvernement s'est entouré, c'est vrai, d'une très imposante délégation ministérielle, rien ne dit qu'il parviendra grâce à cette session de rattrapage à rassurer une population impatiente qui se sent le plus souvent abandonnée et qui plus que tout attend désormais des services de l'État, des réponses concrètes et immédiates. Marie Mollet, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Envoyé spécial à Mayotte. Alors ce matin, François Bayrou a enchaîné les visites, a commencé par une usine de dessalement, un collège, puis un hôpital de campagne, avant une cérémonie d'hommage au capitaine de gendarmerie Florent Monnier, décédé en intervention après le passage du cyclone.
Oui, François Bayrou au pied du monument aux morts de Mamoudzou Prilagon, venu prononcer un hommage à Florian Monnier, effectivement ce capitaine de gendarmerie, mort le 20 décembre à l'issue d'une intervention de secours. Quelques mots du Premier ministre prononcés au micro avant une Marseillaise. Tout autour de la place, des dizaines de Mahorais se sont massés pour écouter François Bayrou. J'ai cru qu'il était là pour faire des annonces, glisse un jeune homme. À l'issue de cet hommage, François Bayrou s'avance, serre quelques mains, puis recule pour faire coucou de loin. Déception d'une partie des Mahorais ici présents, comme cette dame qui souhaitait lui parler de son fils malade.
Nos mamans devraient venir auprès de la population qui souffre. Mais il passe là, on le voit passer sans que nous, on puisse dire ce qu'on ressent. Parce que j'ai couru pour le rattraper là et il est parti.
Ou encore ce Mahorais qui espère, lui, davantage que des saluts de la main, dit-il. Il attend toujours les annonces de fond.
Mais c'est parce qu'on attend. On attend qu'il fasse quelque chose pour Mayotte. Les bonjours, les merci, on en a dit plein. Pour l'instant, on n'a pas entendu les annonces. Un plan qui construira Mayotte, c'est tout. Mais pas les bonjour, au revoir. Non, 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 c'est là, on en a vu les visites passer ici. Hein. Manuel Valls, Isabelle Borne, et ils sont tous passés ici.
Et François Bayrou lui a promis du concret, du réel, un plan qu'il a baptisé Mayotte debout et qu'il doit présenter tout à l'heure, 18h30, heure de Paris.
Merci Marie Mollet, envoyée spéciale à Mayotte avec Christophe Papon pour les moyens techniques. Alors on évoquait à l'instant les conséquences de ce cyclone dévastateur. Or il se trouve qu'un rapport international d'une ONG britannique, Christian Aid, vient lui dresser ce matin la liste des 10 catastrophes climatiques les plus coûteuses pour cette année 2024. De Véronique Robert-Rod, bonjour.
Bonjour.
Les chiffres semblent vertigineux. 229 milliards de dollars de dommages, sans oublier bien sûr le bilan humain. 2000 morts, aucune zone du monde monde n'a été épargné par ces tempêtes extrêmes, et ce, même si, Véronique, les États-Unis ont été particulièrement touchés.
Ouais, les destructions les plus coûteuses sont effectivement localisées dans la plus grande économie du monde, les États-Unis, pays où le climato-sceptique Donald Trump redeviendra président le mois prochain. On trouve en tête du classement l'ouragan Milton qui a touché les USA en octobre dernier, bilan 25 morts et 60 milliards de dollars de pertes, soit environ 58 milliards d'euros. Et derrière Milton, eh bien, on trouve en deuxième position l'ouragan Helene qui a frappé en septembre dernier la Floride ainsi que le Mexique et Cuba. Un doublé nord-américain suivi du typhon Yagi qui a fait lui 800 morts en Asie du Sud-Est en septembre également et causé 12,6 milliards de dollars de dégâts plus près de chez nous. Eh bien, on trouve la tempête Boris qui a tué en Europe 26 personnes, causé 5 milliards d'euros de pertes et les inondations de Valence aussi en Espagne avec ses 226 morts. Le Brésil et la Chine touchés par des inondations figurent aussi dans le top 10 des catastrophes les plus coûteuses. Les dégâts causés par le cyclone Chido tout récemment en France à Mayotte, elles n'ont pas été pris en compte dans cette étude. Alors au total, vous l'avez dit, ces catastrophes particulièrement destructrices ont accumulé une facture de 229 milliards de dollars, l'équivalent de 220 milliards d'euros. Mais, expliquent les auteurs du rapport, eh bien, le coût de ces aléas est certainement bien plus élevé puisqu'il ne prend en compte seulement la valeur des biens matériels qui sont assurés, sous-estimés aussi les dégâts causés par les sécheresses et les canicules, beaucoup moins impressionnants matériellement, mais avec d'autres dommages, notamment sur l'approvisionnement alimentaire, non pris en compte.
Merci Véronique Robérot. Avec cette année 2024 marquée par une crise inédite depuis la dissolution voulue par Emmanuel Macron, mais aussi des records institutionnels parmi les moins enviables, un gouvernement démissionnaire pendant près de 2 mois, ou bien encore le bail à Matignon le plus éphémère de la 5e République, c'est un peu un jour sans fin. Hier, le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, a déclaré vouloir à son tour inviter tous les partis politiques à venir dialoguer avec lui à Bercy, dans l'espoir de trouver des compromis pour favoriser l'adoption d'un budget.
Et tandis que l'examen du projet de loi de finances 2025 s'annonce toujours chaotique, un élément pourrait bien s'annoncer déterminant dans la trajectoire de redressement des finances publiques.
Oui, le remboursement des PGE, ces prêts garantis par l'État octroyés pendant la crise du Covid, puis lors de l'inflation des prix énergétiques au début de la guerre en Ukraine. Or, en cas de défaillance de l'entreprise, eh bien c'est l'État lui-même qui est censé rembourser le montant du prêt à la banque. D'où, Marie Viéno, l'incertitude qui pèse désormais sur le coût final de ce dispositif pour les comptes de l'État.
Mesure emblématique du quoi qu'il en coûte, les prêts garantis par l'État ont été octroyés à plus de 800 000 entreprises pour un total de 145 milliards de crédits. Selon des chiffres obtenus par les Échos auprès de la Banque publique d'investissement, 38 milliards 400 millions d'euros restent encore à rembourser, essentiellement de la part des PME et des très petites entreprises, car les grandes entreprises de plus de 5000 salariés les ont quasi toutes remboursées. L'été dernier, la Banque de France avait chiffré à 3 milliards et demi d'euros le coût pour l'État des prêts qu'il devrait rembourser à la place des entreprises, mais c'était avant l'automne et l'augmentation du nombre de celles qui mettent la clé sous la porte. On s'attendait à ce rattrapage, car entre 2020 et aujourd'hui, le nombre de défaillances avait beaucoup chuté du fait des soutiens publics. Mais la situation s'avère plus grave que les projections. En cumulé, sur les 12 derniers mois, le nombre de faillites est en effet supérieur à ce qu'il était entre 2009 et 2019. Et 2025 ne se présente pas mieux, vu la baisse des prévisions de croissance pour l'année qui vient. En théorie, il faudrait donc revoir le coût pour l'État de ces PGE non remboursés en 2025. Est-ce que cela se compte en millions, en centaines de millions ou en milliards? On verra en tout cas à la présentation du nouveau budget comment l'exécutif prend en compte cette dégradation attendue de la conjoncture. Ce qui est sûr, c'est que plus on s'approche de l'échéance limite pour les remboursements des PGE, c'est-à-dire fin 2026, plus il y a des risques que les entreprises qui n'ont pas encore soldé le leur aient du mal à le faire.
Le premier quart du 21e siècle touche à sa fin et durant toute cette période des fêtes, France Culture vous propose, vous le savez, de dresser un premier bilan des grandes transformations qui ont émaillé donc ces 25 dernières années à travers les portraits de plusieurs institutions centrales de la vie publique française. Aujourd'hui, comment retracer l'essor de l'Internet en tant que nouvelle source inépuisable de contenu? Comment garder la mémoire? Que veut dire archiver le web pour le savoir? Direction la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, avec son chef de service du dépôt légal numérique, Vladimir Tibine. Il est aujourd'hui l'invité de la rédaction, interrogé par Catherine Pétillon.
Bonjour Vladimir Tibine. Bonjour.
En 2000, les contenus qui sont publiés sur Internet sont déjà importants. Alors, à cette époque, comment la Bibliothèque nationale de France voit arriver ces productions et comment émerge la réflexion sur ce que doit être votre rôle vis-à-vis de ces contenus ?
Oui, alors en réalité, avec l'apparition du web en 1993, la bibliothèque, dans le courant des années 90 et à la fin des années 90, s'est très vite souciée et rendu compte que tout un pan de la production d'œuvres ou de la production culturelle ou de la production d'informations était diffusé sur ce nouvel espace qu'on appelait le web, qui donnait lieu à tout un tas de publications textuelles, images animées, audio bien entendu. Et dans la continuité de sa mission de dépôt légal, qui est historiquement de conserver une trace de tout ce qui est diffusé au public hors du cercle familial, comme les livres, les périodiques et tout un tas d'autres types de documents, eh bien, dans le sillage de ce dépôt légal, on a tout de suite imaginé qu'un dépôt légal du web pouvait se mettre en place et s'instituer.
Alors, on entend que cette réflexion, elle arrive en même temps qu'Internet, et c'est en 2006 finalement que la loi change ce qu'on appelle le dépôt légal et qu'elle l'étend à ce qui est diffusé sur le web. Est-ce que ça va être un tournant pour vous ? Est-ce que ça change des choses très concrètement ?
Oui, tout à fait. Alors en réalité, la BNF était instigatrice de cette loi dite relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Et cette loi, à partir de 2006, dit que la BNF a pour mission de collecter tous les signaux, écrits, sons ou messages de toute nature, faisant l'objet d'une communication électronique au public en France. Et dès 2006, et puis le décret d'application qui suivra en 2011, la BNF a mis en place toutes les étapes en fait qui lui ont permis de collecter de manière automatique, grâce à un robot de collecte, tous les contenus diffusés sur le web français. Et donc tous les contenus perdus du web sont maintenant accessibles à la BNF.
Vladimir Tipine, vous parlez des robots qui permettent de collecter ce qui est publié sur Internet. Ces contenus, ils sont en grande quantité, ils disparaissent. Est-ce que toutes ces spécificités du web, elles ont demandé à une institution comme la BNF de s'outiller différemment ?
Oui, tout à fait. Alors, on utilise un robot qui s'appelle Eritrix, il a un petit nom. Il a été développé par la communauté des archivistes du web à l'international. Donc, c'est un outil open source qu'on partage avec d'autres bibliothèques, d'autres acteurs de l'archivage du web à l'international. Et le robot, en fait, on le lance selon différentes modalités. On réalise des collectes larges, par exemple, tous les ans, sur un spectre très très large de tous les contenus web français identifiés comme étant français, tous les sites en .fr, mais également tous les sites en .com, .net, .org, ou tous les sites régionaux, Alsace, Corsica, etc. Et puis, à côté de ça, le robot peut aussi également être lancé à des fréquences et à des profondeurs variables. Donc, on peut le lancer tous les 6 mois, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, bien entendu, et plusieurs fois par jour, sur des contenus ciblés qui auraient besoin d'être archivés de manière plus fréquente. Donc, vous voyez, il y a toute une palette d'outils et de paramétrages de collecte qui nous permettent d'être au plus proche de cette collecte de contenus, encore une fois, éphémères qui peuvent disparaître à tout moment.
Comment vous envisagez la question de la quantité de ces données et de leur multiplication exponentielle ?
Actuellement, nous avons dans nos collections 2,3 pétaoctets de données. Donc les pétaoctets, ça représente 2 300 000 gigaoctets pour convertir. Donc voilà, ce sont des données massives et ça représente un peu plus de 55 milliards d'URL. Avec cette profondeur temporelle qui nous permet de remonter dans la vie du web. Et d'ailleurs, on parle de remonter dans le temps du web lorsqu'on navigue dans les archives de l'Internet.
Vladimir Tipine, l'arrivée de nouveaux contenus numériques a demandé des nouvelles techniques, on l'entend. Est-ce que ça change aussi le rôle même des conservateurs, le rôle même de la BNF ? Est-ce que ça a modifié quelque chose du rôle même de votre institution ?
Oui, alors l'apparition de ces nouveaux documents nativement numériques, effectivement, a nécessité de la part de l'institution, de ses agents, des bibliothécaires et des conservateurs et conservatrices de s'adapter effectivement à un nouveau type de document. En réalité, c'est plutôt la continuité des collections qui nous importe, c'est-à-dire faire en sorte que le dépôt légal dans toutes ses missions soit en phase avec son temps, avec la manière dont l'information, dont les œuvres sont diffusées à notre époque. Et bien entendu, les conservateurs sont plus sensibles effectivement à des notions qui historiquement étaient plus portées sur des objets physiques ou imprimés. Mais en réalité, le message, c'est plutôt de se dire que ce dépôt légal des documents numériques, il est là pour garantir la continuité des collections et et garantir cette mission de dépôt légal qui est de rendre compte de ce que les Français, la France, la société française produit comme document, comme œuvre, comme information à une époque donnée.
Merci Vladimir Tibine.
Vladimir Tibine, donc chef de service du dépôt légal numérique de la BNF, il répondait à Catherine Pétillon. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par une grisaille toujours tenace sur la plupart des régions, à l'exception du quart sud-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 1 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.